Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de Bastos Motivation. Et mon invité aujourd'hui est un invité que je voulais avoir depuis très longtemps.
Ah ouais?
Ouais, je voulais t'avoir depuis très longtemps, mais c'est vrai que mon contenu sur YouTube n'est pas très adapté.
Je voyais pas à faire de gossip avec toi.
Voilà,
je savais
exactement.
Pas quoi raconter.
Ben Never, vous avez peut-être reconnu sa voix, bienvenue.
Oh, ce qu'on va se mettre.
Merci Bastos.
Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est un screen d'une citation de Romain Gary,
ouais,
qu'on m'a envoyé il y a quelques jours. Et quand j'ai demandé qui je devais inviter pour réfléchir à cette phrase, à cette citation, tu es le nom qui est le plus revenu.
Ah, le plus revenu carrément.
Ouais, le plus revenu.
C'est trop marrant parce que quand tu me l'as envoyé, j'ai pas vu directement de lien avec moi, tu vois. Peut-être que les gens veulent okay, juste m'entendre
plus, hein,
sur ce truc-là, tu vois.
Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est parce que ta manière de réfléchir, à mon avis, sur pas mal de sujets, selon eux, peut apporter pas mal à celui-là,
bien.
Je pense.
J'ai très hâte de décevoir les gens, alors.
Je la lis, cette citation. « Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne des mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. » Et c'est une citation de Romain Gary dans La promesse de l'aube en 1960.
Elle est tellement violente. Et en fait, si on peut contextualiser, moi je l'ai lu il y a très longtemps, donc je ne vais pas avoir toute l'histoire. Mais en gros, c'est autobiographique. Il a romancé 2-3 trucs dedans, mais c'est un peu autobiographique. Et donc, c'est donc évidemment sa relation à sa mère. Et en fait, bon, les gens qui veulent absolument le lire, vous pouvez passer 15 secondes parce qu'il va y avoir un mini spoil. Mais je trouve ça intéressant parce que là, il faut qu'on commande ce truc-là. Pour contextualiser pourquoi il dit ça, c'est qu'il est dans un état un peu critique. C'est-à-dire qu'en fait, lui, donc sa mère, l'a toujours encouragé, il a toujours essayé de faire en grandissant des trucs pour faire plaisir à sa mère, pour qu'elle soit fière de lui, etc. Et à un moment, il part à la guerre et elle lui envoie des lettres très régulièrement et qui l'encourage et tout. Et lui, ça lui donne de la force de fou. Quand la guerre se termine, il rentre chez lui et sa mère est morte depuis 3 ans. Et en fait, sa mère, pour l'encourager, elle avait fait des lettres à l'avance.
Oh là là.
Qu'elle lui a envoyé.
Wow.
Donc c'est pour ça que lui, il est dans un délire de contexte désabusé, tu vois, où il se dit, bah putain, en fait, est-ce qu'il a été trahi? Est-ce que, tu vois, finalement, cet amour-là, il est incroyable, il retrouvera jamais un amour comme ça.
Ouais.
Donc je pense qu'il est dans un état aussi un peu chaud.
Ouais,
quoi.
Un peu spécial. Et puis, il a eu une vie un peu dure, il s'est suicidé plus
ouais,
tard.
Ouais, ouais. Ouais.
Maintenant, c'est bizarre de sa part, étant donné que, genre, en général, quand quelqu'un veut vachement prouver, veut vachement se faire aimer, veut vachement, tu vois... En général, ça provient plus d'un manque d'amour que de trop d'amour.
Ouais. Mais tu sais, moi, je me suis posé la question de... Parce que là, en effet, il a l'air de dire que de trop donner d'amour, ça crée des personnes avec trop de manque ou voilà des gens un peu déséquilibrés et tout. Et moi, je suis pas sûr que, en effet, le trop plein d'amour crée des bonnes personnes, crée des mauvaises personnes, pardon. Alors que à chaque fois, j'ai toujours vu des gros soucis affectifs par le manque d'amour, tu vois.
Ouais. Ben ça, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Maintenant, ça doit venir quand même de quelque chose, cette citation, et on va essayer de creuser. Toi, t'as eu quoi comme jeunesse? T'en parles ou t'as pas
envie? Ouais, de fou. Non, j'en parle grave. Moi, j'ai eu une jeunesse... Ça dépend parce qu'il y a eu plein de périodes différentes. Moi, j'avais un retard de croissance. Mon 1m69 aurait pu être 1m50, on sait pas.
Ok.
Et donc j'étais plus petit que tout le monde. On m'a diagnostiqué très vite. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais l'hypersensibilité. À l'époque, c'était dans un test de QI global. Et puis voilà, il y avait ce truc un peu en pâte et tout.
Ouais, ouais.
Parce que
on a fait vachement de progrès là-dessus. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et puis les termes changent tous les 5-10 ans. Tu vois, le zèbre n'existait pas, par exemple. Tu
oui.
vois. Mais voilà.
Et aujourd'hui, on ne voit que ça.
Voilà, exactement. Mais les termes changent, mais finalement, ça veut toujours dire un peu la même chose. Et du coup, j'étais un peu en décalage avec tout le monde. Et en même temps, j'étais très sociable. Je crois que ça m'a aussi aidé. J'ai eu un instinct de survie de me dire, il va falloir que je sois assez malin, assez sympa avec tout le monde, drôle, etc. Parce que physiquement et tout, je fais pas le poids, quoi.
Ouais. Donc, pour compenser un manque que tu ressentais, hein, d'une certaine manière.
Ouais, de fou. En vrai, ouais, de fou, mais qu'on me faisait sentir. Mais par contre, tu vois, si on parle de la citation et des, je l'ouvre aux parents parce que j'ai eu mes deux parents, tu vois, j'ai pas manqué d'amour mes parents, tous ces moments-là, ils ont toujours été à fond derrière moi. Le traitement hormonal, tu vois, c'est quand même, tu vas te piquer tous les jours pendant 7 ans toi-même. J'avais 8 ans, tu vois. Ils m'ont tout de suite dit, nous, on va t'accompagner. Est-ce que t'as envie de le faire? T'as pas envie de le faire? Tu sais, il y a jamais eu rien qui m'a été imposé et tout. Mm-hmm. Même plus tard, quand j'ai voulu arrêter mes études, finalement, tu vois, j'ai repris, j'ai pas arrêté et tout, mais ils ont toujours été derrière moi et tout. Ouais. Donc, j'ai jamais senti un désintérêt ou un manque d'amour. Ils m'ont toujours soutenu dans tout, tu vois. Ouais. Et je suis persuadé que ça m'a grave aidé. Ouais. Si j'en suis là aujourd'hui, évidemment que l'éducation et l'amour que mes parents m'ont porté, il en est pour quelque chose, tu vois.
Ouais. Moi, j'ai vraiment, tu sais, c'est ma vie est un long fleuve tranquille, quoi. Genre, ouais. Mes parents, c'est, tu vois, genre, c'est le plus bel exemple de relation que je peux imaginer. Ouais. Et d'amour et de belle jeunesse donnée à ses enfants. Moi, je me rappelle de me réveiller un peu, tu sais, genre d'ouvrir les yeux un peu vers 18 ans, au moment où je dois quitter le foyer familial pour aller en prépa, faire mes études, etc. Ouais. Et où j'ai cette réalisation de me dire, mais attends, comment je fais là? Comment je fais pour que ma vie d'après, maintenant, soit au moins aussi bien que ma vie que j'ai eue jusqu'à maintenant?
Ouais, jusqu'à...
Parce que j'ai tout eu, tu vois.
Et parce que t'avais cette notion aussi de rendre tes parents fiers, ou non, c'était par rapport à toi-même?
Vraiment, à ce moment-là, c'est plus par rapport à moi-même. Moi, j'ai toujours eu cette notion de rendre mes parents fiers. Okay. Tu vois, genre, même quand je pars faire des études, c'est un peu pour mes parents que je le fais.
Okay.
Voilà. J'ai toujours attaché énormément d'importance à ça, et je me rappelle même de la première fois où mon papa me dit « je suis fier de toi », tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très important pour moi. Mais à ce moment-là, c'est plus par rapport à moi. La vie que m'ont donné mes parents jusqu'à mes 18 ans, je désespère quasiment à 18 ans de pouvoir faire aussi bien pour moi-même par la suite.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire? Et pas uniquement, d'ailleurs même pas du tout en termes de matériel. C'est-à-dire que, tu vois, jusqu'à 18 ans, j'ai peut-être été 10 fois au restaurant. Tu vois, vraiment, c'était pas le truc.
Tu parles plus en termes de bonheur.
C'était pas du bling-bling. C'était du bonheur. Okay. C'est-à-dire du bonheur et de l'expérience.
Ouais.
Tu vois, des beaux voyages, des belles expériences de vie, des beaux moments partagés en famille, etc. Et à me demander, mais si le bonheur, ça dépend de la différence entre le point A et le point B, comment maintenant je fais mieux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai pas commencé trop fort?
Ouais.
Et du coup, d'un côté, est-ce que je peux pas un peu m'identifier à cette citation en disant, à ce moment-là, mais attends, comment moi je vais avoir autant de bonheur, tu vois, en sortant du foyer familial par rapport à ce qu'on m'a donné jusqu'à maintenant.
Et en même temps, tu vois, moi, je me suis pas mal posé la question de réussite et bonheur, qui sont deux choses complètement différentes pour moi, même si ça peut être lié
ça
des
peut
fois.
Être lié.
Tu vois, il y a un truc qui m'a marqué. Je sais pas exactement où je vais, peut-être que je vais me perdre dans l'explication. Mais quand j'étais gamin, il y avait un mec de la famille un peu éloigné qui était chasseur. Et on avait notre premier chien. Et moi, notre chien, je le kiffais, tu vois. Donc, je le prenais dans mes bras et tout. Et il m'avait dit, non, mais attends, il faut surtout pas se comporter comme ça avec les chiens, parce que tu vois, moi, mes chiens, si je fais ça, après ils chassent plus, etc. Tu vois. Et ça m'a marqué, tu sais, je me suis dit, waouh, ok. Donc après, je savais plus comment me comporter avec mon yinche et tout.
Ouais.
Et pourtant, je sentais que mon chien, il était trop heureux que je lui fasse des câlins et tout, tu vois. Et des années après, alors ça n'a, y a pas de notion de, je vais pas comparer une personne à un chien, mais je sors avec une meuf qui est championne du monde. c'est pour ça que j'étais en mode, je sais pas où je vais là. Je sors avec une meuf qui est championne de twirling bâton. Tu vois ce que c'est?
Non.
C'est, alors il faut pas dire que c'est majorette.
Ah, twirling. Oui, twirling.
Non,
pardon.
Je le prononce mal.
J'ai mal entendu. Non, c'était bien prononcé.
Qui est impressionnant et tout. Tu vois, vraiment un truc.
Elle fait tourner les bâtons en mode comme les majorettes. Mais c'est pas les majorettes.
Il faut pas le dire, mais entre nous, oui.
Oui.
Mais voilà, elle fait des saltos, des trucs. C'est un truc de gymnastique, mais énorme. Et en fait, sa mère, c'est son entraîneuse.
Ok.
Qui avait une carrière de twirling, mais qui n'est pas allée à ce niveau-là, tu vois.
Ne me dis pas qu'elle t'a dit de pas lui faire des câlins.
Et non, alors non. tu vois ma fille, c'est comme ça. Non mais tu vois, il y avait un truc où elle, il y avait, j'ai découvert une relation mère-fille que je ne connaissais pas, même au-delà mère-enfant, tu vois, parent-enfant, où elle lui faisait très très peu de, elle donnait très peu d'amour en fait. Elle avait ce truc un peu entraîneur et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été entraînés par leurs parents ou voilà qui ont un peu ce truc-là. Et parce que tu fais des adultes, en fait, en leur donnant peu d'amour et beaucoup de rigueur, tu fais des adultes qui potentiellement vont très bien réussir leur vie matériellement.
Professionnellement,
qui peuvent aller très loin parce que ça rend les gens hyper performants. C'est plus de la performance.
Mais est-ce que ça les rend heureux?
La productivité et ça, le bonheur, voilà. C'était pas le cas. Et d'ailleurs, elle avait énormément de complexes qu'elle me refilait par procuration, etc. Parce qu'elle était pas heureuse. Et d'ailleurs, elle a fini par arrêter et tout, tu vois.
Alors là, ça pose carrément une question où on peut ouvrir. C'est est-ce qu'il faut être malheureux pour vraiment réussir professionnellement? C'est-à-dire avoir la force de courir après quelque chose sans arrêt et toujours courir après plus. Est-ce que ça vient pas d'un certain mal-être? Là, il y a aussi une ouverture pas mal.
Bah, on en parlait juste avant où moi je te disais, là, pendant un moment, j'ai arrêté mes vidéos pendant 3 mois, je reprends, je suis assez chill. Je vais pas dire que je suis 100% décontracté, tu vois, il y a une petite appréhension et tout. Mais déjà, être heureux et épanoui professionnellement, moi aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je le suis, donc je trouve ça génial, tu vois, avec des hauts et des bas, parce qu'on a des métiers qui sont un peu chelous quand même. On peut vite tomber tous un peu détraqués et avoir des remises en question bizarres et tout. Mais c'est le prix de la liberté, entre guillemets, tu vois, et de faire ce qu'on aime. Mais oui, c'est à partir de quand on estime que ce qu'on a est assez cool, et en même temps, à partir de quand ce qu'on a va perdurer si on se repose sur nos lauriers, quoi.
Ouais. Maintenant là, Romain Gary, dans cette citation, il parle vraiment du bonheur, il parle pas de la réussite professionnelle. Ouais. Il parle de vraiment être malheureux le reste de sa vie parce qu'il a eu trop de bonheur. Maintenant, comme tu dis, sa mère, il l'a perdu, donc elle a pas pu continuer à lui donner. Moi, mes parents, aujourd'hui, ils continuent à me donner du bonheur tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mes parents, c'est vraiment, moi, c'est mon refuge. C'est le truc dès que je vais pas bien, dès que j'ai un petit coup de mou, comme tout le monde, hein, attention, tout le monde en a, bam, je vais voir mes parents et je suis bien. Ouais. J'imagine pas ce que ça pourrait être d'être comme lui et de ne pas pouvoir revenir à ça. Tu vois,
genre. Fou. Non, je préfère même pas y penser. Ça m'est arrivé des fois, tu sais, je me mettais à pleurer tout seul en réfléchissant à ça.
Mais pareil.
C'est horrible. Mais toi, t'as une relation spécifique avec... Je pense que toi, t'es plus proche de ta mère que moi, je le suis avec la mienne.
Ah ouais?
J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que t'as une relation très privilégiée avec ta mère.
Je suis très très proche de
Parce que là, il parle de ça aussi. Là, on sent qu'il y a eu une relation qui, je dirais, même presque fusionnelle avec sa mère.
Mais après, je m'entends très très bien avec mon papa, mais c'est vrai que je pense que je suis un peu plus proche de ma maman.
Ok.
Vraiment, je ne lui ai jamais rien caché. C'est-à-dire que, voilà, j'ai toujours tout pu dire à ma maman et... On parle vraiment à cœur ouvert, on a cette relation où dans tous les moments où j'ai eu des problèmes dans ma vie, je sais que je pouvais toujours lui parler, tu vois.
Tu dirais que c'est la femme de ta vie, du coup.
L'une d'elles. Je pense qu'on n'a pas qu'une femme de sa vie, hein, mais c'est sûr que c'est l'une d'elles. Et pour l'instant, c'est sûr que c'est celle qui a eu le plus d'importance et je pense qu'elle le restera, tu vois.
Parce que c'est ouf.
Ouais. Toi, tu partages quand même pas tout avec ta mère.
Non. Mais globalement, j'étais assez secret, très indépendant. En fait, j'ai eu besoin d'être indépendant très vite. Et donc, je pense que ça a grave joué. Tu sais, je partais au skatepark dès 14 ans, 13-14 ans, et je rentrais hyper tard et tout. Et ma mère savait pas ce que j'avais fait de l'après-midi.
Voilà, kickflip, heel flip. Bien sûr, tu lui racontais pas tout, quoi.
Non. Là.
Il y a des figures qu'il vaut mieux garder secrètes.
Tout ce qui est technique, chacun ses secrets, tu connais. On a notre signature.
Notre Rodney Mullen français.
Voilà, et puis bon, tu vois que ça a marché derrière, donc elle a bien fait. Ouais. Mais j'ai une certaine... Bizarrement, hein, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression... Il y a même des gens qui viennent me voir des fois dans la rue et qui ont presque trop l'impression qu'on peut parler de tout à n'importe quand et tout. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez pudique dans la vie. Je crois d'ailleurs que je fais ces vidéos-là parce que... Ça me permet aussi, tu sais, de créer des contextes et tout. Mais du coup, ma mère, non, je dirais pas que je dis pas tout, hein. Enfin, je dis pas tout, mais je lui dis des trucs, tu vois. Mais non, j'ai pas une relation fusionnelle avec ma mère.
Et ton père plus?
Et non, encore moins.
Encore moins.
Mon père encore moins, ouais. Mais parce que mon père a encore moins instauré ce truc-là, tu vois.
D'accord.
Plus un truc de patriarche, quitter ses émotions et tout. Mais ma mère plus, ma mère, c'est l'inverse. Donc elle surcommunique et tout. Donc on arrive à parler et tout. Mais tu vois, par exemple, j'ai pas besoin d'appeler ma mère chaque semaine, tu vois, par exemple. Je sais pas toi si tu l'appelles.
Non, moi non plus.
Ok.
J'ai pas besoin d'appeler ma mère chaque semaine, mais par contre, quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille et on discute de tout, etc.
Et toi, t'as l'impression que ta mère, elle t'a donné, j'imagine que je connais un peu la réponse, mais t'as l'impression que ta mère t'a donné trop d'amour?
Non, on va y venir. Moi, je suis pas d'accord avec Romain Gary.
Ok.
Ouais, je suis pas d'accord avec Romain Gary, je voulais qu'on parle d'abord un petit peu de aussi le fait de confondre amour et matériel, c'est-à-dire je grandis dans la facilité, dans l'opulence, parce que mes parents me donnent énormément. Qu'ils soient riches ou pas, mes parents me donnent énormément matériellement. Et le fait, parce que ça peut venir aussi de l'amour, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on voit des parents qui adorent leurs enfants et qui ont envie de tout leur donner. Et je pense que là, il y a un truc à dire aussi.
Mais tu sais, c'est marrant parce que moi, j'avais vraiment des collèges, lycées, j'ai vraiment eu des potes. On était dans des endroits où c'était très mixé, tu vois. Il y avait des gens très riches et des gens très pauvres. Et c'était assez étonnant parce que je m'en suis rendu compte très tôt que mes potes les plus malheureux étaient les potes les plus riches. Alors qu'à l'époque, c'était ceux où quand on allait chez eux, on se disait, mais ils habitent dans des trucs de fou et tout. Mais ils habitaient tous dans des maisons vides, mon gars. Et ça, c'est vrai qu'en fait, à l'époque où ça paraissait ouf de l'extérieur, je me rendais compte je me rendais pas compte, en fait, que c'était des gens qui avaient des parents hyper absents, parce que très carriéristes, etc., qui souvent eux-mêmes avaient eu des parents qui leur avaient donné peu d'amour, donc eux-mêmes ne savaient pas comment donner de l'amour, et donc ça passait que par le matériel. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, si on doit se dire 20 ans après ce qu'on est tous devenus, la plupart de ceux qui ont manqué d'amour sont devenus fucked up alors qu'ils ont aucune galère financière aujourd'hui.
Exactement. Et moi, un peu pareil que toi, en grandissant, donc plus jeune, c'était en mode la chance, tout est incroyable. Moi, je vais même pas au resto et lui, il a une dame qui lui prépare à manger tous les jours des plats différents et tout, incroyable. Et puis les jeux vidéo et puis machin. Puis en grandissant, j'ai continué à côtoyer, entre autres, des gens très, très riches, venant de familles très riches à New York. Donc cette espèce de jeunesse dorée française au lycée français, machin, etc. Et d'ailleurs américaine aussi. Et je me suis rendu compte, à quel point les gens qui, et pas forcément manquaient de la présence de leurs parents, mais surtout qui avaient tout, et tout en grande quantité, qui parfois, pas toujours, mais venaient de parents qui avaient envie de tout leur donner parce qu'eux en avaient manqué quand ils étaient plus jeunes, tu vois, parce qu'il y a aussi vraiment cette tendance-là où moi, j'ai pas eu tout ce que je voulais, je me suis battu, j'ai tout gagné, et maintenant, mes enfants, je vais les gâter. Et je veux dire, le step, il n'est pas mauvais dans l'idée, tu vois. Genre, j'ai envie de leur donner tout ce que moi, je voulais absolument quand j'étais petit. Génial. Sauf que eux, ça enchaînait.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Pas tous, mais pour beaucoup, ça enchaînait les cures de désintox. Tu vois, genre en arrivant à la fin de l'adolescence, ça enchaîne les cures de désintox. Ça vit dans un profond mal-être. Parfois, ça fait des tentatives de suicide. C'est genre vraiment, moi, j'avais cette impression que ces jeunes qui avaient reçu beaucoup et qui n'avaient pas forcément tous, certains, pâti de l'absence de leurs parents très carriéristes, machin, n'étaient vraiment pas plus heureux, étaient vraiment beaucoup plus malheureux. Et j'ai même eu, pendant un moment, l'idée de devenir tuteur. De devenir tuteur, c'est un truc qui existe beaucoup aux États-Unis pour les enfants trop... comment dire ?
Genre Pascal le grand frère pour les riches ?
Exactement. Voilà.
C'est vrai ?
Ouais, exactement. Pour les enfants pour les jeunes qui souffrent de tous ces excès dus au fait de matériellement avoir tout facilement. Quand tu as tout facilement, tu ne veux rien. Tu
n'as aucun challenge de vie, en fait.
Exactement.
Et je trouve que moi, je suis très content. Alors, je ne viens pas d'une famille hyper modeste non plus, mais tu vois, on n'a pas eu des galères de fin de mois pour manger, des trucs comme ça.
Moi
et
non
tout.
Plus.
Mais pour autant, mes parents, ils m'ont donné très rapidement la valeur de l'argent. C'est pour ça qu'après le bac, très rapidement, j'ai payé l'entièreté de mes études en travaillant, etc. Parce que j'avais un espèce de challenge de me dire, OK, j'ai eu le temps et j'ai évolué surtout. En fait, c'est ça qui m'a aidé. J'ai évolué dans un cocon d'amour qui a fait que j'avais assez confiance en moi pour me dire que j'allais pouvoir tout niquer derrière, tu vois. Et ça, c'est cool. Et ça, je pense que ça s'apprend pas sans amour. Je crois que c'est vraiment un truc que tu grandis avec ce truc d'amour qui fait que tu deviens une personne confiante, alignée avec toi-même et tout. Et après, tu peux gérer tes challenges perso et tout. Mais je crois que cette base-là, si tu l'as niquée à la base, En fait, t'as plus de challenge, t'as rien, tu sais pas exactement qui t'es, tu sais pas vraiment ce que tu vaux, parce qu'en fait, t'as aussi beaucoup de gens. Moi, j'en vois plein des. Alors, on tape beaucoup sur les gosses de riches, je pense qu'il y en a plein qui sont très heureux aussi, mais cette espèce de.
Ah, mais
truc
je tape
de...
pas sur eux, au ouais, contraire, ouais. Je pense que c'est très. C'est, ah, oui, non, c'est
non,
horrible.
Non, mais je veux dire, il y a peut-être
des victimes.
Ouais, mais il y a peut-être des gosses de riches qui nous écoutent, qui sont très heureux, c'est qui. Voilà.
Oui, grave.
Mais en tout cas, c'est apparemment, on a eu à peu près les mêmes expériences, mais il y avait même un truc d'être. Tu sais, c'est cette scène dans Five. Où Pierre Ninet, c'est un, tu l'as vu Five, où c'est un gosse de riche parce qu'il est fils d'un grand médecin, etc. Et donc en fait il paye la coloc pour tout le monde et tout, mais ouais. En fait il a des galères d'oseille parce que son père lui coupe les vivres. Et il y a un moment où en fait toute la bande de potes ils font la blague genre bah c'est, je sais pas s'il s'appelle Pierre ou pas, mais en gros ils lui disent ah c'est toi qui va payer les glaces. Et là il pète un câble, il fait ouais c'est toujours moi qui paye les glaces, c'est pour ça que vous êtes avec moi et tout. Et c'est vrai que c'est des vraies dynamiques qui existent où par moment, t'as certaines personnes qui ont manqué d'amour et qui, en fait, ne savent pas comment se passent les relations et tout, et qui ont presque doute de leur valeur et où leur valeur passe uniquement par l'oseille. Et ça, je pense que c'est le truc qui te fucked up le plus parce que tu dois faire les pires choix de vie, tu t'entoures des mauvaises personnes et t'as l'impression que, genre, la seule valeur que tu peux donner aux autres, c'est ton oseille, tu vois.
Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut blâmer un parent qui, en fait, montre son amour à son enfant de la mauvaise manière, c'est-à-dire en lui donnant des choses, parce que lui, ce dont il a manqué, c'était des choses, et que du coup, il a envie de montrer son amour comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut le blâmer?
Bah, on peut, en tout cas, on peut le comprendre, parce que ça s'explique.
Voilà, on peut le comprendre.
Et on fait chacun, on va éduquer nos enfants en fonction de l'éducation qu'on a aussi eue et tout. Mais je pense qu'à un moment, oui, il y a aussi la conscience de se dire que c'est sûrement pas le meilleur moyen de faire grandir un enfant qui va être un adulte heureux plus tard, quoi.
Voilà. Mais c'est quand même une représentation de l'amour, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr,
pour cette personne, c'est quand même une représentation de l'amour de donner. En fait, ce que je veux faire en parlant de ça, c'est de montrer que il y a plein de manières de donner son amour, mais que l'amour, s'il est donné de la bonne manière et de la manière saine, eh ben, il est pas handicapant comme il a pu l'être pour Romain Gary, ou en tout cas comme il le montre dans sa citation. Ouais. C'est ça que je crois. En fait, je pense que vraiment cet amour, s'il est donné correctement, différencié du matériel, différencié de voilà, de plein de choses néfastes, cet amour, il peut être que positif.
Ouais.
Donner de l'amour, ça apprend une seule chose, ça apprend à en donner aussi à son tour.
Après, on sait qu'il y a quand même une hiérarchie des manières de donner de l'amour. Tu vois, il y a des études scientifiques qui ont été faites où on se rend compte qu'un nourrisson, si tu lui fais pas des câlins, s'il a pas un contact physique, il meurt en fait.
Ouais.
Et t'as ça sur pas mal d'espèces et tout. Et c'est marrant, quand t'étais venu dans Entre Mecs, on avait parlé du fait que de dire je t'aime à ses parents, etc. Tu vois, moi je sais que mon père ne m'a jamais dit je t'aime, en tout cas peut-être par écrit une ou deux fois, mais très récemment. Et je sais que ça m'a beaucoup manqué quand j'étais enfant, ado, etc.
Aujourd'hui, et lui n'en avait certainement aucune idée.
Non, parce que lui, il ramenait l'argent à la maison, on partait en vacances, c'était lui qui payait les vacances, etc.
Voilà. Donc, et
lui,
il avait l'impression, voilà, c'était sa manière d'exprimer son amour.
Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est ce manque-là, tu vois. Alors, je pense qu'après, il y aura toujours des manques. Hein.
Ouais.
Les fils de gens plus modestes, ils vont dire, bah nous, on partait jamais en vacances et tout.
Ouais, voilà.
Il y aura toujours des manques quelque part.
Moi, il m'aimait pas, mon papa, parce que je partais pas en vacances.
Voilà, c'est ça.
Bah, non.
C'est ça, ouais. Mais en tout cas, passer du temps avec des gens, donner de l'attention, ça restera toujours supérieur que d'être absent, voilà, mais d'offrir une PlayStation, quoi.
Exactement. Et je pense que le don du bon amour, celui qui est le plus haut dans la hiérarchie, il apprend une chose à l'enfant, c'est à lui, à son tour, à en donner.
Grave.
Et du coup, à être heureux. Parce que je pense que, genre, vraiment, la vraie manière d'être heureux, supérieure à toutes, c'est quand même de donner de l'amour et d'en recevoir.
Carrément.
Et quand t'en donnes, en général, tu vois ce que je veux dire, dans la société, en général, quand tu donnes de l'amour, t'en reçois. Les gens qui donnent le plus d'amour en reçoivent le plus. C'est comme
c'est
ça. Et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec sa citation. C'est l'amour, c'est quelque chose de magique et on peut pas se comporter vis-à-vis de l'amour comme on peut se comporter vis-à-vis du don de choses matérielles, vis-à-vis du don d'expérience, vis-à-vis de... L'amour, c'est quelque chose d'au-dessus de tout ça. Et on peut pas devenir un trop gâté de l'amour.
Ouais, ouais.
Ça existe pas. Plus t'en donnes de l'amour, si tu sais bien le donner, mieux c'est.
Ouais. Je pense qu'en fait, la dérive dans l'autre sens, c'est le trop plein d'amour. C'est ce qu'on appelle des mamans poules, papa poules, etc. Bon, là, ça
mais
c'est
encore
mignon.
Une fois, peut-être que c'est une mauvaise manière.
Ouais, exactement.
Être une maman poule. Aimer ton gosse, ça veut pas dire le surprotéger.
Exactement. Tu sais, de lui empêcher de faire des choses ou de le guider uniquement dans la voie qui te paraît toi la meilleure et tout, tu vois. Et ça, je pense que ça peut aussi être hyper toxique.
Bah
et,
oui, bien
et,
sûr.
Et empêcher le développement de quelqu'un, quoi.
À partir du moment où tu viens nuire à la liberté de ton gosse parce que tu l'aimes trop et que du coup t'as envie de le surprotéger, c'est une autre forme d'amour qui est mal donnée.
Carrément.
Parce que il faut lui donner sa liberté, lui donner de l'amour, c'est aussi lui le faire voler de ses propres ailes, ouais. Exprimer sa propre personnalité, faire les choses qu'il veut vraiment faire. Tu parlais tout à l'heure de un parent coach.
Ouais.
C'est de l'amour qu'il donne le parent coach en poussant son gosse à réussir, en poussant son gosse à aller s'entraîner, en poussant son gosse à devenir toujours meilleur, etc. On l'a vu comme ça peut être problématique dans ouais. des tonnes de films. Le papa...
Qui fait le transfert, quoi.
Bah ouais, exactement.
Qui fait vivre la vie qu'il avait envie voilà. de vivre lui-même, quoi.
C'est lui son manque et la plus belle chose qu'il croit pouvoir donner à son gosse, c'est de donner ce dont lui il a manqué.
Exactement.
Et c'est pas comme ça.
Ouais.
Voilà. Mais si l'amour est correctement donné, c'est-à-dire en donnant les moyens à son gosse de finalement se réaliser et de devenir lui-même de la plus belle manière qui soit dans un contexte de bienveillance, de gentillesse et d'amour, il n'y a pas de trop.
Carrément. Faut en donner le plus possible. Ouais, carrément. C'est pour ça que je donnais le contexte au début parce que je serais curieux de savoir ce qu'il a pensé de cette phrase après, tu vois. Même si bon, il a écrit le livre, donc je pense qu'il, tu vois, il l'a relu, etc.
Il y a réfléchi.
Il a peut-être même contextualisé en écrivant la phrase et tout. Mais je sais que, en fait, l'amour-haine déjà est très lié. La limite est très fine. Donc on peut très vite en vouloir à des gens qu'on aime énormément aussi. Donc tu peux souvent penser que t'as été trop aimé ou trop gâté ou trop ceci, trop cela. Je trouve que c'est assez compliqué. Je crois qu'il y a un truc un peu paralysant quand tu deviens parent, c'est le délire aussi de te dire putain, est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce que je vais donner assez d'amour, pas assez et tout? Voilà, je pense qu'il y a toujours des questions.
Exactement.
Mais le fait de se questionner avant, à mon avis, c'est déjà la bonne voie.
Ouais, le mieux c'est d'écouter ce podcast, je pense, avant de faire des enfants.
Évidemment, bah, bien sûr, bien sûr.
Un bon bastos motivation avant de faire des enfants, et puis c'est bon, la réussite est assurée.
C'est la clé.
Non, mais voilà, moi je pense pas pouvoir imaginer une seule seconde avoir reçu trop d'amour de mes parents, et pourtant je pense que j'ai reçu le maximum d'amour qu'on pouvait, et de la meilleure manière qui soit, qu'on pouvait recevoir. C'est-à-dire que, tu vois, genre, je me suis souvent demandé, ok, qu'est-ce qui se passerait si j'étais gay? Est-ce que ça serait un problème de l'annoncer à mes parents? Je sais qu'ils m'aimeraient exactement pareil.
Ouais.
Je me suis souvent demandé, qu'est-ce qui se passerait si j'avais envie, tu vois, d'avoir une vie complètement différente et de pas forcément travailler ou, tu vois, genre, ma vie n'a jamais dépendu de leur fierté. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, je sais qu'ils auraient toujours été derrière moi et qu'ils m'auraient toujours aimé.
Ouais.
Et je me suis jamais demandé est-ce que je vais faire ça ou pas, parce que selon eux, leur centre d'intérêt et eux, leur système de valeurs, est-ce qu'ils accorderont de la valeur à ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, comment tu crées un espace où tu sais qu'avec eux, quoi que tu fasses, tu peux être toi-même à 100%.
Exactement. Et je pense que c'est ça, tu vois, et est-ce qu'ils m'aimeront toujours pareil? Voilà. Et je me la suis posé cette question depuis que je suis tout petit, tu vois.
Ok.
Tout en voulant quand même leur faire plaisir et qu'ils soient fiers de moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, la manière dont ça s'est traduit, c'est dans le fait de vouloir combler juste les espaces d'inquiétude. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Est-ce que, tu vois, parce que c'était ça leur seule inquiétude à mes parents. C'était pas, est-ce que il va être un champion? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, par contre, j'ai fait des trucs pour bien leur montrer, ok, vous inquiétez pas, tout va bien. Tu vois, je savais que je cherchais une manière de me réaliser qui était différente du couloir que prenaient tous les gens qui faisaient des études avec moi. Tu vois, je savais que j'allais vouloir papillonner un peu plus, aller voir à droite à gauche, que j'allais vouloir voyager, que j'allais vouloir... Je le savais. Mais je me disais, ok, je vais quand même finir mes études, parce que moi, si j'étais parent, je m'inquiéterais quand même pour le bonheur de mon gosse. Et savoir que j'ai un diplôme, je sais que ça les mettra bien. Et en vrai... Ça pourra me servir à moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça me fait pas perdre trop d'années. Et puis une fois qu'ils seront, tu vois, genre reposés, contents, et ben hop, je ferai les autres trucs.
Ouais. Moi, je pense que, tu vois, j'ai fait des études longues. J'ai un master 2 comme toi. Et je pense que j'ai fait des études longues pour rendre l'amour que mes parents m'ont donné jusqu'à maintenant, tu vois. Et de m'avoir toujours poussé vers ce que j'avais envie de faire, tous mes délires. Enfin, il y avait vraiment des trucs, tu sais, où même moi, je me dis, ouais, quand je vais avoir un gamin, est-ce que je peux le suivre dans ces délires-là et tout? Et je pense que c'est ça aussi l'amour, tu vois. C'est ce truc de dire, vas-y, quoi qu'il arrive, t'as des gens qui vont te rattraper, t'as des gens qui sont là derrière toi, qui t'encouragent parce que tu testes des trucs et parce que t'apprends à devenir toi-même, quoi.
100%.
Et ça, malheureusement, tu peux pas le faire tout seul. Soit c'est tes parents, il y a des gens qui n'ont pas de parents, donc évidemment, les tuteurs, l'entourage. Enfin, tu sais, on a besoin d'un cocon comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, t'as plein de gens qui sont en litige avec leurs parents, qui leur donnent pas assez d'amour. Et qui se recréent une espèce de cocon avec leurs potes, tu vois, où leurs potes deviennent leur famille et tout. Et comme ça, ils arrivent à avoir... Tu sais, on essaie tous de reboucher les trous pour...
Et qui créent parfois des dépendances affectives avec leurs amis à cause du manque d'affection qu'ils n'ont pas reçu de leurs parents.
Complètement.
Ouais.
CF, l'épisode d'avant, à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, avec
Exactement. On en a parlé, on l'a évoqué, la dépendance affective amicale. Pour conclure, je pense que tous les deux, on a à peu près le même avis. Et en plus, on a des expériences quand même assez similaires vis-à-vis de l'amour et des choses qu'on a fait par amour pour rendre un peu à nos parents l'amour qu'ils nous ont donné. On n'est pas du tout d'accord avec Romain Gary. Je pense qu'il fait fausse route et c'est sûrement pas de sa faute.
Il est meurtri, là.
Voilà, il est meurtri, il est pas bien. On va certainement pas conseiller aux parents qui nous écoutent
de donner moins
de contrôler la dose d'amour qu'ils donnent à leur gosse. Ça, certainement pas. Par contre, il y a des manières de bien le donner, cet amour. Il y a des manières de contenir un peu ces pulsions qui découlent de certains manques de sa propre jeunesse. Faut essayer de réfléchir là-dessus, de prendre du recul, en fait. Et c'est à ça qui sert le podcast. Je suis pas un mec hyper intelligent, hyper tout ce que tu veux. Toi, t'es pas non plus Dieu et un gigantesque psy.
On peut en discuter.
Voilà, on théorise rien. Mais on peut en discuter et prendre du recul sur les choses. Et en écoutant ce podcast, je pense qu'on peut aider aussi les gens qui écoutent à prendre du recul.
Et je pense qu'en plus, on a vite fait, encore plus, je trouve, dans les trucs ambiants, même les réseaux sociaux de manière globale et tout, on se fait abreuver quand même d'un maximum d'émotions. Je crois que c'est cool aussi de prendre un peu de recul et finalement de se rendre compte que c'est pas le truc le plus évident à faire parce que c'est pas le plus efficace pour exciter notre cerveau. Mais l'amour, j'englobe avec la bienveillance, le truc, parce que ça va avec évidemment, mais le donner de l'amour aux gens qui nous entourent, je crois que c'est vraiment la clé. Ouais. De tous les mots et du savoir vivre ensemble.
Exactement. Donner de l'amour. C'est la conclusion.
C'est beau, ça.
Fuck Romain Gary. Give some love. Mais ouais. Et l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre juste une attention. Exactement. Sans contrepartie. Juste une attention gentille, sans contrepartie, pour montrer qu'on est là pour les autres. Montrer que s'ils ont besoin de nous, on est là. Et pas forcément en essayant de leur montrer la bonne voie qu'ils doivent choisir ou quoi que ce soit. Non, juste une attention, un petit cœur, n'importe quoi.
Deux heures de moins de TikTok et vous allez voir vos amis, vous allez voir les gens qui vous entourent, vous allez voir vos grands-parents si vous avez la chance qu'ils sont encore là et vous allez boire un café avec eux.
Exactement. Donnez de l'amour à ceux qui vous entourent et ceux que vous entourez.
Mais c'est très vrai, hein, que donner de l'amour, en fait, c'est donner de son temps. Parce que c'est le truc le plus précieux qui existe aujourd'hui.
Exactement.
Et donc ça, donner
aujourd'hui
du temps
et hier et demain.
Absolument.
Ça sera toujours le truc le plus précieux. Ça sera toujours plus précieux que le diamant, l'or et tout ce que tu veux.
Ouais, c'est le seul truc qui n'est pas extensible.
Voilà. Exactement. Merci, Ben.
Merci à toi,
d'avoir
trop
été
cool.
là. C'était trop cool d'avoir cette conversation avec toi. Tu vois, je suis sûr qu'ils seront contents de t'avoir choisi.
Ah, ça va, j'ai pas déçu. Dites-nous. Non, il n'y a pas de commentaires.
Ah, bon,
mettez 5 étoiles quand même au podcast.
Mais je suis sûr qu'on aura des hyper bons retours là-dessus. Moi, en tout cas, je suis pas déçu. C'est quand même quelque chose.
Bah, c'est bon. Moi, c'est fait. Au moins, ma journée est réussie.
La totalité de ton audience présente en ce moment même.
Trop bien.
Est comblée.
Oh, on est sur du 100% là. Mais qu'est-ce qui se passe là?
100%, c'est dur à réaliser.
Là, mes stats sur YouTube, c'est pas jamais 100%. Là, j'ai tout niqué là.
Merci les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec Ben et moi. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir. Et si vous avez kiffé, oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'être là tous sur ce projet qui me tient énormément à cœur, qui me fait énormément plaisir, que je fais pour la première fois un peu sans me dire, je veux faire des vues, je veux performer, je veux capter au maximum l'audience, je veux gagner de l'argent. C'est vraiment pas le but. Je le fais juste pour moi.
Et ça a l'air de marcher.
Et ça marche, mais je le fais vraiment par plaisir et j'invite les gens que je veux.
Ça, c'est cool.
Ouais, sans me dire, est-ce qu'ils vont le connaître? Est-ce qu'on va pouvoir parler de choses qui va leur plaire, etc.
C'est vrai qu'il y a un truc de liberté dans le podcast audio.
Oh là là.
Les gens écoutent, tu t'en fous.
Et je me suis juré que j'allais le garder comme ça jusqu'au bout. Ça changera pas. Voilà, donc merci les amis. Je vous fais des gros bisous. Toi aussi, tu leur fais des bisous.
Salut, bien sûr, je fais des bisous à tout le monde et énormément d'amour à 100% des gens qui écoutent ce podcast.
Merci les amis, à la semaine prochaine. Ciao,
salut.
Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.
Oh, ce qu'on va se mettre.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.